C'est un petit pays, hein. Il y a 21 000 km², 6 millions d'habitants, une densité très grande. Alors moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est la grande pauvreté. La moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et puis il y a une concentration de la richesse entre les mains de quelques familles qui se sont rendues pratiquement propriétaires du pays. Ce qu'on dit, c'est qu'après les accords de paix qu'il y a eu en 1992, suite à la guerre civile, le problème principal n'a pas été résolu, c'est-à-dire les écarts entre les riches et les pauvres est plus grand qu'il y a 30 ans, quand j'y étais, quoi, hein.
Le Front Farabundo Marti pour la Libération Nationale a joué sur ce tableau justement pendant la campagne électorale. On a vu qu'il avait gagné du terrain depuis sa victoire aux législatives de mars dernier. Il a des chances, selon vous, de l'emporter dimanche ?
Il a des chances. Puis là, il a remporté aussi les élections municipales dans plusieurs grandes villes et ils ont fait du bon travail. Mais le FMLN n'a peut-être pas fait tous les efforts qu'il aurait dû faire. Le candidat à la présidence est peut-être propagé par rapport à un pays quand même où il y a beaucoup de jeunes, quoi. Hein.
Vous parlez de Shafik Kandal.
Shafik Kandal, oui. Mais ça, c'est un avis personnel. Je dis, ça n'a peut-être pas été très heureux. Mais moi, je crains un petit peu actuellement, d'après les nouvelles, qu'il ne gagne pas les élections à cause de la diabolisation.
C'est-à-dire que la droite brandit la bannière anticommuniste et rappelle les violences de la guerre civile.
Exactement. Et puis c'est avec ça qu'on diabolise, quoi. Hein. Là, on me disait, dernièrement, j'ai eu des nouvelles, qu'on fait venir des Cubains réfractaires au régime actuel de Fidel Castro pour dire, vous voyez, si vous votez dans ce sens-là, vous allez à la misère.
Alors Washington avait fait pression pendant les années de dictature sur le Salvador. Les Salvadoriens sont encore très dépendants des États-Unis.
Bah, bien sûr, avec une pression très grande, quoi. Passer toute l'Amérique latine, vous savez, c'est ce qui est en train de se préparer, le traité de libre-commerce, quoi, hein, qui va mettre ces pays-là dépendants des États-Unis. Par exemple, le lait salvadorien, si le traité est accepté, se vendra plus cher que le lait nord-américain à cause des subventions qui sont données aux paysans des États-Unis, dans le même pays du Salvador. C'est un petit exemple. Hein.
Une autre réalité de ce pays et de cette politique, c'est le rôle qu'a joué l'Église, et notamment cette figure de Monseigneur Romero, l'archevêque de San Salvador assassiné en 1980, en hommage duquel des centaines de Salvadoriens ont encore défilé dimanche dernier.
Ça, c'est un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui me marque quand on y retourne comme ça. C'est la présence des martyrs. Les gens n'oublient pas. La chapelle où est enterré Monseigneur Romero ne désemplit pas, il y a toujours du monde. Puis il y en a d'autres, hein. Il y en a eu des milliers de martyrs, hein. Des prêtres, des religieuses, des laïcs, hein. Et ça donne beaucoup de courage.
Pour conclure, qu'est-ce que l'Église peut apporter aujourd'hui à la société du Salvador ?
Les communautés chrétiennes peuvent apporter quand même une espérance. Parce qu'il y a beaucoup d'utopie quand même perdue avec tout ce qui s'est passé, avec tant de morts, tant d'échecs, on croyait, puis ça ne marche pas. Alors, j'ai dit quand même, l'espérance qu'ils ont, alors ça, ils peuvent le donner au peuple.
Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous voulez insister ?
Ah ben, j'aimerais bien lire un petit témoignage de Monseigneur Romero, 17 février 80. Des pauvres ont tracé à l'Église son vrai chemin, une Église qui ne s'unit pas aux pauvres, et à partir d'eux, ne dénonce pas les injustices commises contre eux, n'est pas la véritable Église de Jésus-Christ.